c'est le moment de retrouver pour la dignité pour ce mois de novembre. Bonjour Régis Coulanges.
Bonjour Odile, bonjour Raphaël. Bonjour. Et bonjour à tous.
Voilà, alors cette émission pour la dignité est un peu spéciale. D'abord, on va la dédier à Raquel Tiercelin, qui était une militante d'Amnesty de longue date, qui a, avec d'autres, créé le groupe de Pertuis, et qui est décédée début septembre. Voilà, et on a tous été très touchés par ce décès, parce que elle a une histoire qui est peu commune. En effet, elle est enfant de républicains espagnols, et à la fin de la guerre d'Espagne, quand ça a été la débâcle pour les républicains, ses enfants sont partis dans des camions pour la France. Ensuite, ils arrivaient en gare, tous ces enfants de républicains, et le train montait vers le nord, et à chaque gare s'arrêtait, et des enfants descendaient pour être accueillis dans des familles d'accueil. Donc Raquel s'est retrouvée en Mayenne, dans une famille, sans savoir où était sa mère, où était son père, s'ils étaient encore vivants, voilà. Et ensuite, elle a fini par retrouver sa mère, parce que les parents de ses enfants, il y avait des listes qui recherchaient leur enfant, ils ne savaient pas où il se trouvait. Et finalement, par ces listes, elle a pu retrouver sa mère, et ensuite, ils ont retrouvé le père qui avait été, comme beaucoup de républicains espagnols, enfermé dans des camps sur la place d'Argelès, notamment, c'était là où il était. Voilà, ensuite, elle a fait des études, elle a été prof à la fac d'Aix, et elle a ensuite été militante d'Amnesty International, une militante très, très active jusque presque à la fin de sa vie. Voilà, donc, elle a notamment été très active pour la défense d'Antoinette Chahine. Et nous allons en parler beaucoup dans cette émission, parce qu'Antoinette Chahine, qui est une ancienne prisonnière d'opinion, torturée et condamnée à mort, et qui a été finalement innocentée en appel, grâce notamment à la présence d'Amnesty International. Antoinette Chahine va être accueillie le 21 novembre au lycée, pour l'inauguration du patio qui va porter son nom. Enfin, on va en reparler. Voilà, et Raquel était considérée un peu comme sa maman française par Antoinette Chahine, parce qu'elle a beaucoup écrit. Le groupe de Pertuis avait son dossier de prisonnière d'opinion, et Raquel a beaucoup écrit et a tout fait pour la faire venir en France pour qu'elle finisse ses études. Voilà. Elle a aussi beaucoup œuvré en Mauritanie, dans une association de soutien à un défenseur des droits humains très célèbre en Mauritanie, qui lutte contre la persistance de l'esclavage en Mauritanie, parce que c'est le pays où justement l'esclavage, à la mode ancienne si vous voulez, hein, où les gens sont considérés comme non pas des personnes mais des meubles, peuvent être prêtés, donnés, tout ça, vendus. Elle a été très active au sein de ce mouvement en France, et Biram Dahabé, qui est l'opposant politique principal, qui est un peu considéré comme le Mandela, le nouveau Mandela africain, lui a rendu hommage par un petit texte que je vais vous lire. Raquel, tu nous quittes, mais tu restes. Ton image de femme debout contre l'injustice et en faveur de l'humanité est toujours présente en notre sein. Ton soutien indéfectible de ton vivant à notre cause, ta cause, la cause de tous les justes, nous a marqués à jamais, comme ton esprit rayonnant, toujours en première ligne parmi les personnes singulières qui vivent utiles et meurent en restant vivants dans les vies et cœurs de leurs semblables. Voilà, c'est un message de Leïla et Biram envers Raquel. Voilà, on écoute justement une chanson des républicains espagnols.
No pasará.
Moros que trajo Franco en Madrid quieren entrar, mientras queden milicianos, los moros no pasarán, mientras mientras quieren milicianos, los moros no pasarán. No pasarán, no pasarán. Aunque me tiré en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. No pasarán, no pasarán. Diez mil veces que los piden, diez mil veces los haremos. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingeniero. Tenemos cabeza dura, los del cuerpo de ingenieros. No pasarán, no pasarán. En el Ebro se han hundido las banderas italianas. En los puentes solo quedan las que son republicanas. Y en los puentes solo quedan las que son republicanas. No pasarán, no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Donc voilà. On passe à défendre les droits humains sous Trump.
On a eu le témoignage de Paul O'Brien, qui est directeur d'Amnesty International, la section des États-Unis. Il témoigne de l'impact profond des politiques de la nouvelle administration pour son organisation, les entraves croissantes à son travail, ainsi que les risques accrus auxquels sont exposés les défenseurs des droits humains. Il nous a dit la virulence, la rapidité et l'ampleur des attaques menées à la suite de l'investiture du nouveau président ont pris tout le monde par surprise. Offensive anti-immigration, attaque contre les personnes trans, restriction du droit à l'avortement, fin des politiques de justice sociale, sanctions contre la Cour pénale internationale, la liste n'en finit pas. En seulement quelques semaines, une batterie de décrets était déjà signée dans le but d'anéantir des décennies de progrès pour les droits humains. Ces attaques visant les droits les plus fondamentaux des Américains, mais aussi celles et ceux qui les défendent, les organisations non gouvernementales en première ligne. 10 mois après le retour de Donald Trump au pouvoir, c'est dans un contexte extrêmement hostile que Paul et ses équipes d'Amnesty International États-Unis doivent avancer et composer. La légitimité dont bénéficiaient les organisations de droits humains a été peu à peu sapée par l'administration américaine, tout comme les moyens d'action. Première attaque d'envergure menée par l'administration Trump contre le secteur, des coupes budgétaires drastiques imposées à l'Agence américaine pour le développement international. Elles ont frappé de plein fouet des dizaines d'organisations dépendantes, en plus ou moins grande partie, du financement américain. Depuis janvier, on assiste à la destruction du plus grand système d'aide humanitaire et de développement au monde. C'est pour ça que c'est vraiment... Ça aurait été vraiment un scandale qu'il ait le prix Nobel de la paix parce qu'il a aggravé tout le malheur dans beaucoup de pays. En effet, cette agence d'aide au développement représentait plus de 40 milliards d'euros. Elle finançait 42% de l'aide humanitaire mondiale, faisant d'elle le plus important bailleur de fonds du monde. Du coup, des centaines de milliers de vies sont menacées par ces coupes et par l'interruption soudaine de l'approvisionnement en médicaments antiviraux ou en alimentation, ou encore de la réponse aux crises. Et on ne parle que des aides immédiates et vitales. Ces politiques ont été rendues possibles par la propagation d'idées qui ont nourri un sentiment croissant chez le public que les institutions multilatérales ne servent pas aux besoins et préoccupations principales des gens ordinaires, la hausse des prix, les droits économiques, les droits sociaux. Par ailleurs, beaucoup pensent que le pays consacre une part énorme de son budget aux aides étrangères, alors qu'en réalité, ces dépenses ne représentent que 1% du budget.
Contrairement à beaucoup d'autres ONG, Amnesty International États-Unis, comme toutes les autres sections du mouvement, comme tout Amnesty, ne reçoit pas de financement de l'État fédéral, justement pour garder notre indépendance. Cela nous permet de pouvoir continuer à résister et maintenir notre posture face à l'administration Trump. Mais pour beaucoup d'ONG qui reçoivent des fonds fédéraux ou d'institutions philanthropiques, c'est une autre histoire. Par ailleurs, près de 200 organisations ont été directement visées par le Congrès via des lettres menaçant de couper leurs financements fédéraux. Les organisations soutenant les politiques en faveur des personnes réfugiées et migrantes ont été particulièrement ciblées. Si elles résistent, d'autres attaques sont à craindre. L'administration Trump n'a pas encore déployé toute sa force à l'encontre des ONG. En février, le décret présidentiel autorisait des sanctions inédites à l'encontre de la Cour pénale internationale, une institution juridique essentielle dans la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Toute entité soutenant le travail de la CPI est également exposée à des sanctions. Cela augmente considérablement les risques encourus par certaines organisations qui travaillent en lien avec l'institution. Voilà, donc je vais passer la parole à Raphaël qui va nous parler de toujours comment défendre les droits humains sous Trump, faire front contre ces attaques.
Faire front commun contre les attaques. L'offensive massive de l'administration a rendu difficile une réponse globale et coordonnée du secteur. Mais à mesure que les pratiques autoritaires se renforcent et que l'agenda anti-droit se précise, les manières de penser l'action collective évoluent. Nous partons tous d'un constat commun. Les impacts de ces politiques risquent d'être absolument désastreuses pour les Américains ordinaires. Cela a poussé les organisations de la société civile à se rapprocher au mieux et mieux collaborer. Nous travaillons désormais de manière approchée avec de nouveaux types d'acteurs tels que les organisations de droit civique, mais aussi des organisations humanitaires. Nous mettons de côté nos différends pour répondre aux attaques contre les droits humains de manière non partisane et impartiale. Face à l'annonce du nouveau mémorandum présidentiel visant explicitement les ONG, la riposte ne se fait pas attendre. Le 30 septembre, plus de 3000 organisations à travers le pays ont signé une lettre ouverte dénonçant une attaque majeure contre la liberté d'association et d'expression, une mobilisation sans précédent. Partout, des activistes du monde entier se mobilisent contre les attaques à l'encontre des droits humains aux États-Unis. Cette mobilisation internationale est essentielle. Cela montre que nous ne sommes pas seuls, que notre voix est entendue et que les communautés mondiales continuent de se mobiliser en faveur des droits humains. L'idéologie anti-droit de l'administration Trump s'est construite autour d'un mythe, celui selon lequel les attaques contre les minorités profiteraient à une partie des Américains, explique Paul. Mais ces politiques sont en réalité dramatiques pour les expressions et les droits sociaux, économiques et politiques de toutes et tous. En un seul texte, le président a réussi à attaquer les femmes, les personnes migrantes, les demandeurs d'asile, mais aussi des millions d'Américains désormais privés de leur droit à la santé. Pour Paul, ces politiques ne prospéreront que tant qu'elles bénéficieront du soutien du public ou à défaut d'une forme de tolérance. D'où l'importance, selon lui, de documenter, démontrer, dénoncer plus que jamais les effets concrets et dévastateurs de ces mesures sur les droits, les libertés et la vie quotidienne des Américains. Entre affaiblissement des institutions et restriction des espaces d'expression, les citoyens sont progressivement privés de leurs moyens de défense, faisant peser le risque qu'il soit trop tard pour réagir lorsque les atteintes seront devenues irréversibles. Mais progressivement, la colère monte. Face aux politiques injustes, aux déportations massives, à la militarisation des rues et à la transphobie, de plus en plus d'Américains s'indignent. Les récentes manifestations pacifiques contre les politiques migratoires à Los Angeles en sont une illustration claire. Ça a été un véritable réveil pour les Américains, pour qui non seulement ces pratiques violent les droits humains, mais aussi les normes fondamentales de la décence humaine. L'administration est inquiète face à ce regain. Si l'indignation générale reste timide, Paul perçoit un soutien croissant d'une frange de la population réceptive aux messages portés par son organisation. De plus en plus de personnes se tournent vers nous. De même, au Congrès, dans les États, au sein même des certaines municipalités, des voix s'élèvent contre les dérives du pouvoir fédéral, et pas uniquement dans le camp démocrate. Des responsables politiques et institutionnels se réouvrent progressivement à notre travail et comprennent son importance. Cela fait l'objet d'une partie de plus en plus importante de nos efforts. Résister par-delà les frontières. S'exprimer, protester et se mobiliser contre le délitement progressif des droits civiques et politiques aux États-Unis et partout dans le monde est plus urgent que jamais. Parfois, nous sommes démoralisés. Trop de personnes sont déjà durement impactées par les politiques de Trump, mais nous ne pouvons pas nous permettre de reculer. Nous devons absolument résister et montrer notre solidarité avec les communautés impactées. Le monde regarde la France comme un gardien des droits humains. Mais en France, comme aux États-Unis, on assiste à une réelle polarisation de la société. Ce qui est à l'œuvre aux États-Unis n'est qu'une accélération profonde de ce que l'on observe déjà ailleurs, notamment en Europe. Partout, les discours et politiques anti-droits gagnent du terrain. C'est pourquoi il est essentiel d'en tirer les enseignements nécessaires pour éviter que dans d'autres pays, comme la France, de telles attaques soient mises en œuvre. Mmh.
Il y a des regards qui fuient, des mains qui tremblent, des enfants sans lit et des cris qui s'assemblent, des silences trop longs dans les halls sans lumière, et des vies qui tiennent à un fil à l'envers.
Dis-moi pourquoi le monde tourne sans voir nos plaies. Pourquoi l'amour s'effondre quand on n'a plus de paix.
J'ai vu des gens dormir sous les lois du mépris, des cœurs en exil dans leur propre pays, des promesses qui s'envolent comme des papiers froissés, et des âmes qu'on oublie sans même les croiser.
Et moi je voudrais y croire, à demain l'espoir, mais je suis fatiguée de pleurer quand personne veut écouter. Mais si un mot peut consoler, et si une voix peut rassembler, alors qu'on l'utilise avant que tout s'enlise.
Alors chante avec moi,
même si t'as plus la voix.
Le monde est trop grand
pour qu'on reste petit.
On n'a pas les armes,
mais on a les larmes.
Et peut-être qu'un jour,
elles deviendront flammes.
Je vais vous parler de la situation de Cécile Kohler et Jacques Paris en Iran. Et Raphaël nous parlera d'un avocat tunisien pour la suite. Voilà, alors mardi 14 octobre, les autorités iraniennes ont condamné les deux Français à 10 ans et 6 ans d'emprisonnement pour espionnage au profit du service de renseignement français et 5 ans pour complot et collusion en vue de commettre des actes contre la sécurité nationale. À ces peines s'ajoutent des condamnations très lourdes de 20 ans et 17 ans de prison en exil pour coopération en matière de renseignement avec le régime sioniste et complicité d'espionnage pour le compte de Tel Aviv. C'est lors d'un voyage touristique en Iran que Cécile Kohler, professeur de lettres, et son compagnon Jacques Paris sont arrêtés le 7 mai 2022. Raison officielle, espionnage. Depuis, elle est détenue dans la tristement célèbre prison d'Evin à Téhéran, dans des conditions déplorables. Le Quai d'Orsay dénonce une politique de prise d'otages d'État et de chantage permanent exercée par les autorités iraniennes. Le ministère a également condamné la pratique odieuse des aveux forcés en public. Entre son arrestation en 2022, date à laquelle Cécile Kohler a obtenu pour la première fois une très brève visite consulaire de 10 minutes, elle a été soumise à une disparition forcée et maintenu à l'isolement prolongé, un crime au regard du droit international. Nous avons recueilli de nombreuses informations montrant que les conditions de détention prévalant dans la section 209 de la prison d'Evin bafouent l'interdiction absolue de la torture et des autres formes de mauvais traitements. Le 6 octobre 2022, la radio-télévision de la République islamique d'Iran a diffusé les aveux, entre guillemets, forcés de Cécile Kohler sur les médias d'État dans une vidéo de propagande entrecoupée d'images de vidéosurveillance la montrant lors de son voyage en Iran avec une narration en voix off, une musique mélodramatique et des mots affichés en grands extraits des aveux pour assurer un effet dramatique. Sous la contrainte, on l'entend avouer être un agent du service de renseignement extérieur de la France ou s'être rendu en Iran pour aider à préparer les conditions de la révolution en Iran et du renversement du régime iranien islamique et avoir utilisé l'International de l'éducation, une fédération mondiale de syndicats enseignants, pour soutenir ses efforts. Les autorités françaises ont dénoncé ces prétendus aveux estorqués sous la contrainte. Sa famille a également nié à plusieurs reprises toutes les allégations formulées dans cette vidéo de propagande. En diffusant ces aveux forcés, les autorités iraniennes ont bafoué le droit de Cécile Kohler à la présomption d'innocence, ainsi que son droit de ne pas témoigner contre elle-même. Ses proches sont très préoccupés, d'autant plus qu'ils ne savent pas si elle obtient des soins médicaux dont elle a besoin. Les rares témoignages venant directement de la prison d'Evine confirment son état se dégrade. La prix Nobel de la paix de 2023, la journaliste Narges Mohammadi, temporairement libérée pour raisons médicales, expliquait lors d'une interview sur France Inter avoir demandé des nouvelles de Cécile et d'autres prisonnières qui avaient partagé sa cellule. Elles disent que sur le plan physique, elle est extrêmement affaiblie. Je suis très inquiète pour elle. Moi aussi, j'étais en isolement. Ce sont des conditions terribles, une vraie torture, a-t-elle expliqué. Depuis la mi-juin, sous prétexte d'une chasse aux espions et aux personnes accusées de collaboration avec Israël, la répression s'est intensifiée. Sous couvert de sécurité intérieure, les autorités iraniennes ont accru la surveillance, les arrestations arbitraires et les procès expéditifs. Depuis le début de l'année, plus de 1000 personnes ont été exécutées par les autorités iraniennes, soit le nombre d'exécutions le plus élevé jamais recensé depuis 15 ans. La détention de Cécile Kohler est arbitraire compte tenu de la gravité des violations de ses droits à un procès équitable, notamment son droit à la présomption d'innocence, son droit de ne pas témoigner contre elle-même, son droit à un procès devant un tribunal indépendant, compétent et impartial, de consulter un avocat de son choix dès son arrestation et lors de son procès, de son droit à une défense adéquate et d'être protégé de la torture et autres formes de mauvais traitements, et son droit de véritablement pouvoir contester la légalité de sa détention. Nous appelons la France à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour protéger et obtenir leur libération. Les autorités iraniennes doivent libérer immédiatement et sans condition Cécile et Jacques, les protéger contre tout acte de torture et toute autre forme de traitement, veiller à ce qu'elles puissent communiquer avec ses proches régulièrement par téléphone, recevoir les soins médicaux adaptés. Je laisse la parole à Raphaël.
L'avocate tunisienne Sonia Damani, en prison pour avoir critiqué les autorités. Alors vous pouvez la soutenir sur le site d'Amnesty. Il y a déjà 6932 soutiens. Aidez-nous à en attendre 50 000. Sonia Damani, avocate et chroniqueuse, est en prison depuis le 11 mai 2024. Son crime ? Avoir pris la parole en direct à la télévision en critiquant la politique des autorités tunisiennes. Incarcérée dans la prison de Manouba, à Tunis, sa santé se détériore gravement. Il est urgent d'agir pour obtenir sa libération. Alors signez pour changer son histoire. Sonia Damani, 60 ans, avocate et figure médiatique tunisienne de premier plan, intervenait fréquemment et librement dans les émissions de radio et de télévision en Tunisie. Mais le 11 mai 2024, tout bascule. Des policiers cagoulés font irruption dans les locaux de la maison des avocats à Tunis et embarquent Sonia violemment. La scène, filmée en direct par une équipe de France 24, est largement reliée sur les réseaux sociaux et marque les esprits. Elle est placée en détention à la prison de Manouba, où elle est toujours incarcérée. On l'arrête pour diffusion de fausses informations. Les fausses informations en question, un commentaire ironique qu'elle fait lors de l'émission télévisée sur la politique migratoire des autorités tunisiennes. Le racisme existe. Je n'ai rien inventé. Si je dois aller en prison pour l'avoir dit, qu'il en soit ainsi, dit Sonia Damani. Depuis qu'elle est incarcérée, Sonia Damani subit un acharnement juridique. Elle fait l'objet de 5 poursuites juridiques distinctes. 3 d'entre elles ont déjà conduit à des condamnations et les 2 autres affaires pénales sont encore en cours d'instruction. Ces poursuites s'inscrivent dans un contexte de recul inquiétant des droits fondamentaux dans le pays, avec l'arrivée au pouvoir du président Kais Saied. La liberté d'expression est notamment réprimée à coups de décrets-lois. L'adoption du décret-loi 54 visant officiellement à lutter contre la cybercriminalité accorde un large pouvoir aux autorités pour faire taire les voix critiques. Sonia Damani est incarcérée arbitrairement. Dans la prison où elle est détenue, elle subit des traitements humiliants de la part de ses gardiens et gardiennes. Elle vit dans des conditions déplorables, dans une cellule insalubre, privée de biens, de première nécessité et de soins médicaux adaptés. Il est urgent qu'elle soit libérée. Demandez justice pour Sonia Damani au président de la République tunisienne. Pour changer son histoire, signez notre pétition.
Merci Raphaël.
Songez que maintenant, la lune pâle est sur la ville. Songez que maintenant, en cette nuit douce et tranquille, un homme ferme les yeux à jamais dans cette seconde. Et dans un lit miséreux, un rêveur est venu au monde. Songez-y, dans cette nuit. Songez que vous avez du vin et du pain sur vos tables. Songez que vous avez à des richesses incroyables. Songez à ceux qui la nuit voient la lumière à vos fenêtres, qui n'ont ni table ni lit. Songez que la misère est traître. Songez-y dans cette nuit. Songez à ceux qui rient pour cacher qu'ils n'ont plus de larmes. Et songez à ceux qui crient la voix brisée dans le vacarme. Et songez à ceux qui noient leur désespoir et leur faillite. Et songez comme parfois un verdict se prononce vite. Songez-y dans cette nuit. Songez que quelque part, cette nuit sombre et secrète, songez que quelque part on doit compter les baïonnettes. Songez que s'il n'en manquait rien qu'une seule à cette somme, cela pourrait épargner peut-être alors la vie d'un homme. Songez-y dans cette nuit. Je me demande parfois s'il faut quand même aimer ce monde. Il faut l'apprendre, je crois, à chaque instant, chaque seconde. Songez-y dans cette nuit.
Maintenant, je vous parle d'un article qui est paru sur La Chronique, le journal d'Amnesty International France, que vous pouvez trouver à la médiathèque de Digne. Et vous pouvez aussi avoir l'article sur le site amnesty.fr. C'est tout un dossier qui concerne la Serbie. En effet, le 15 mars à Belgrade, un phénomène d'origine inconnue a semé la panique au cœur d'une manifestation. Pour comprendre, la journaliste Elodie Emery s'est rendue sur place. Je repasse les vidéos encore et encore. Je sais que des milliers de Serbes l'ont fait avant moi, mais je traque quand même un détail, un indice susceptible d'expliquer ce mal mystérieux ayant frappé les manifestants le 15 mars dernier à Belgrade. Des dizaines de films amateurs circulent sur les réseaux sociaux. On y voit une foule immense et compacte, figée dans le recueillement pendant de longues minutes. Un hommage aux victimes de la gare de Novi Sad, deuxième plus grande ville de Serbie. L'auvent en béton de l'entrée principale s'est effondré en novembre 2024,
tuant 16 personnes. La gare venait d'être rénovée pour 16 millions d'euros, mais l'enquête judiciaire en cours soupçonne que les travaux ont été réalisés sans plan structurel ni supervision technique fiable. Les Serbes ont l'habitude, la corruption ronge tout. Mais cette fois, c'en est trop. Dans tout le pays, les étudiants ont bloqué les universités, les manifestations sont quotidiennes. Celle du samedi 15 mars est la plus massive qu'ait connue la Serbie. 300 000 personnes à Belgrade, 10 000 au moins sur la seule artère de Kraja Milana. Juste avant que tout bascule, le silence est si dense que l'on entend sur les vidéos le ronronnement de la climatisation de l'hôtel Hilton tout proche. Puis, à 19h11 exactement, ça commence. Une jeune femme se retourne comme si elle avait senti quelque chose. Un souffle, une menace, une présence derrière elle. Une autre limite. Et soudain, une force invisible fend la foule en deux. L'avenue Kraja Milana se vide en moins de 2 secondes. Stop. Je rembobine encore une fois. Qu'est-ce qui a pu provoquer cette déchirure? Pas de choc, pas de charge policière, pas de canon à eau, pas de gaz lacrymogène. On ne voit rien et on n'entend quasiment rien non plus. Un sifflement lointain sur certaines vidéos, vite couvert par des cris de panique. Puis tout s'arrête. Les manifestants reviennent au centre de l'avenue, à gare, comme sonnés. Sur l'une des vidéos, on distingue une voix. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Le lendemain, la presse serbe ne parle que de cette foule tranchée nette par une fosse mystérieuse. Sur les réseaux sociaux, les hypothèses s'emballent. À la télévision, un expert militaire puis un avocat évoquent une idée vertigineuse. Et si le gouvernement avait tiré sur la foule avec une arme secrète? Une arme capable de vider une avenue entière en quelques secondes. Cette arme existe, précise-t-il, et il la nomme canon sonique. Un simple tour sur Internet suffit pour apprendre que le canon sonique n'est pas une invention de science-fiction. Il est né aux États-Unis au début des années 2000, conçu à l'origine pour repousser les attaques de pirates en mer. À première vue, rien de spectaculaire. Une enceinte dont le trépied est posé sur le toit d'un véhicule blindé ou porté à la main pour les modèles les plus légers. Mais le dispositif émet un son strident, projeté en faisceau étroit vers une cible, et lorsqu'il est dirigé sur une foule, il peut provoquer une douleur intense au tympan, des lésions même et un déséquilibre sensoriel. Voilà, je m'arrête là. Vous pourrez continuer à lire cet article si ça vous intéresse, cette arme utilisée en Serbie. Et donc, je vous invite à aller consulter la chronique ou aller sur le site d'amnesty.fr pour terminer la lecture de cette nouvelle forme de répression des manifestations. Voilà, alors le groupe Dinois, le 21 novembre, va se retrouver au lycée Pierre-Gilles-Eugène, car on va faire l'inauguration du patio Antoinette Chahine. Voilà, c'est le proviseur du lycée qui en a décidé ainsi, parce que l'année dernière, Antoinette Chahine est intervenue pour livrer son témoignage à tous les terminales du lycée, plus des professeurs, témoignage sur la torture qu'elle a connue, et sur la peine de mort qu'elle a connue également. Et depuis qu'elle a été libérée grâce à l'action d'Amnesty, innocentée, elle milite partout dans le monde contre la torture et la peine de mort. Et son témoignage est très fort, tellement fort qu'il a incité donc le proviseur à nommer le patio Antoinette Chahine. Donc ils ont aménagé ce patio et le 21 novembre, Antoinette Chahine revient. Elle va livrer à nouveau son témoignage et elle sera... de 10h à 12h. À midi, il y aura l'inauguration du patio. Ensuite, elle est invitée à un repas avec l'antenne jeune du lycée, le proviseur et quelques membres du groupe d'Amnesty. Et voilà. Donc, on va mettre au lycée une exposition contre la peine de mort qui est composée de nombreuses affiches. Et ensuite, il y aura cette intervention et puis cette inauguration. Voilà. Et puis, je vous rappelle que le mercredi 26 novembre, on aura notre réunion mensuelle à 17h dans la salle des associations à la mairie de Digne. Et n'importe quel auditeur, s'il est intéressé, peut venir voir comment se passe notre réunion mensuelle. Voilà. On va maintenant... terminer sur le thème de la peine de mort par une interview de Robert Badinter. Robert Badinter qui rentrait au Panthéon dernièrement. Antoinette Chahine était d'ailleurs invitée au Panthéon parce que Robert Badinter considérait que Antoinette Chahine représentait le combat contre l'abolition universelle de la peine de mort dans le monde. En plus, Robert Badinter a été un des premiers membres de la section française d'Amnesty International. On va finir cette émission par l'interview qu'il a donnée à Amnesty et la chanson de Julien Clerc, L'assassin assassiné.
La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme et le moindre des choses est évidemment d'être fidèle à cette inspiration. We'll be right back. L'abolition, ça a été un grand combat en France, et je dois mentionner à cet égard la constante attitude d'Amnesty à l'encontre de la peine de mort, toujours menée campagne. J'ai peine, je dois le dire, à évoquer ce qu'était l'attachement séculaire des Français pour la peine de mort. Et on ne peut pas dire qu'ils souhaitaient majoritairement sa disparition. À chaque fois qu'il y avait un grand crime, à chaque fois c'était la même vague de demandes de mise à mort. Et moi qui ai plaidé dans ces périodes, bien des affaires où était en jeu réellement la vie et la mort de l'accusé, je ne bénéficiais pas d'une popularité remarquable. Au contraire, je peux vous dire que les abords du palais étaient remplis d'une foule qui criait « À mort, à mort, à mort !» Le climat n'était pas bon. Le matin du débat sur l'abolition, il y avait un sondage publié dans un grand journal de droite pour la peine de mort, 67%. Le président de la République élu avait annoncé sa volonté d'en terminer avec la peine de mort. En votant pour une majorité de gauche, il savait qu'au programme de chacun des partis de gauche, il y avait l'abolition. Donc le moins qu'on en puisse dire est qu'on ne les a pas pris de surprise. Nous sommes un pays dont très souvent les responsables politiques présentent à l'étranger une vision hérénique. Ah, la France, pays des droits de l'homme. La France n'est pas le pays des droits de l'homme. Cette terrible histoire depuis des siècles, et notamment depuis la Déclaration des droits de l'homme, témoigne de ce que la France n'a pas été, hélas, le pays des droits de l'homme. Mais ce qui est certain, c'est que la France est le pays de la Déclaration des droits de l'homme. Nous sommes le pays de la Déclaration des droits de l'homme, et le moindre des choses est évidemment d'être fidèle à cette inspiration. On ne peut pas se réclamer des droits de l'homme et avoir la privation de la vie, c'est-à-dire la première atteinte concevable aux droits de l'homme, premier des droits étant la vie, dans la législation. Je prends les démocraties européennes occidentales, nous étions le dernier et le seul pays en Europe à conserver la peine de mort. La France a aboli, la courbe des crimes sanglants va se maintenir, en fait elle a descendu, elle a diminué pour d'autres raisons. Je ne tiens rien contre le crime. Toutes les statistiques concordent qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas la peine de mort. La courbe du crime sanglant suit son chemin. Et les Français s'en rendent compte qu'on peut vivre sans la guillotine. Il faut continuer. Continuer, toujours rappeler les mêmes principes, dénoncer les mêmes injustices. Vous savez, quand on regarde de près derrière l'administration judiciaire de la peine de mort, se cachent, se dissimulent tous les poisons d'une société. Moi, je n'ai jamais vu un fils ou une fille de banquier américain dans les cellules des condamnés à mort. Mais les plus infortunés des Noirs des États-Unis, vous les comptez en nombre. Le racisme peuple les cellules de condamnés à mort. Et l'inégalité sociale, et l'inégalité culturelle, et l'inégalité de richesse entre les pays, tout cela joue. Et derrière le masque de la justice, en réalité, c'est tous les préjugés et c'est tous les poisons d'une société qui se libère. c'était fini pour moi. La peine de mort était terminée depuis le 30 septembre 1981, pour être très précis, à midi 20 au Sénat. Mais au-delà, à l'ensemble du monde, l'abolition, pour moi, n'a de sens que universelle. Donc, depuis 1981, c'est à l'abolition universelle que je me suis consacré au sein d'Amnesty, ou maintenant que l'âge est venu, aux côtés d'Amnesty. Quand je suis monté à la tribune de l'Assemblée nationale en 1981, nous étions le 37e État dans le monde à abolir la peine de mort. Mais quand je vois tous les deux ans aux Nations Unies l'appel au moratoire sur la peine de mort, présenté d'ailleurs par quelques grandes démocraties occidentales, dont la France, je vois que le nombre s'accroît de votes en faveur du moratoire universel, que le nombre des États opposants décroît, mais très lentement. Comment ne me dirais-je pas que nos amis de ces pays-là doivent encore lutter, beaucoup lutter, difficilement lutter, mais que nous qui avons le privilège d'avoir réussi à construire des civilisations axées sur les droits de l'homme et donc aboli la peine de mort, nous devons les aider. La tâche d'Amnesty, elle est là. C'est l'abolition universelle. La marche vers l'abolition universelle, elle se poursuivra et ça sera acquis. J'en suis sûr, je ne verrai pas, mais ça sera acquis.
C'était un jour à la maison, je voulais faire une chanson d'amour peut-être, à côté de la fenêtre, quelqu'un que j'aime et qui m'aimait. Lisait un livre de Giono, et moi penché sur mon piano, comme sur un établi magique, j'essayais d'ajuster les mots à ma musique. Le matin même, à la santé, Un homme avait été exécuté, et nous étions si tranquilles. Là, au cœur battant de la ville, c'était une fin d'après-midi, à l'heure où les ombres fidèles sortant peu à peu de chez elles composent doucement la nuit. Comme aujourd'hui, ils sont venus à pas de loup, d'un ton doux, c'est le jour, c'est l'heure. Il les a regardés sans couleur. Il était à moitié nu. Voulez-vous écrire une lettre? Il a dit oui, il a pas pu. Il a pris une cigarette.
travail tombait le soir. Mais les mots restaient dans le noir. Qu'on me pardonne, mais on ne peut certains jours écrire des chansons d'amour. Alors j'ai fermé mon piano. Paroles et musique de personne. Et j'ai pensé à ce salon où sans laver sur le pavé par ces bourreaux, je ne suis président de rien. Moi je ne suis qu'un musicien. Je le sais bien. Pour dire seulement cette chose. Messieurs les assassins, commence, oui, mais la société recommence. Le sang d'un condamné à mort, c'est du sang d'homme, c'en est encore. C'en est encore, chacun son tour, ça n'est pas drôle. On lui donne deux, trois paroles et un peu d'alcool. On lui parle, on l'attache, on le cache dans la cour. Un grand noir protège sa mort. Et puis ensuite, ça va très vite, le temps que l'on vous décapite. Si je demande qu'on me permette, à la place d'une chanson d'amour peut-être, de vous chanter un silence. C'est que ce souvenir me hante. Lorsque le couteau est tombé, le crime a changé de côté. Si j'y ce soir dans ma mémoire, un assassin assassiné, assassiné.